Chers frères et sœurs et chers amis, notre étude concerne « Prier le Notre Père ». Des millions de chrétiens prient cette prière apprise par cœur sans vraiment en comprendre le sens profond de ce que veut vraiment dire l'importance de chaque mot. Et j'ai honte de dire que cela a également été pendant des années mon cas. Je pense que cette étude va peut-être nécessiter 4 CD. Sur notre premier CD, nous allons nous arrêter sur les 3 phrases suivantes. Premièrement, notre Père qui est aux cieux. Deuxièmement, que ton règne vienne. Et troisièmement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chers amis, que l'on prie, c'est certain, mais qu'il sache le faire, c'est tout autre chose. Il est donc nécessaire d'apprendre à prier. Les évangiles nous révèlent dans Saint Luc chapitre 11 verset 1 que même Jean-Baptiste l'avait appris à ses disciples. Il nous rapporte aussi les paroles de Jésus-Christ en réponse à la demande de ses propres disciples, conscients de leur incapacité à bien prier. Seigneur, lui avait-il dit, enseigne-nous à prier. Cet enseignement de Jésus-Christ sur la prière se trouve essentiellement dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 6, versets 5 à 13. Des millions de nos semblables, assurément, sont capables de répéter par cœur les paroles de cette prière, évidemment. Mais combien en comprennent le sens véritable? Aussi reprendrons-nous chacune des expressions qui la composent pour que ces paroles ne soient pas, comme nous le dit Jésus-Christ, de vaines redites à la manière des païens, mais une véritable prière. Chers amis, les paroles du Seigneur ont-elles vieilli? Bien au contraire. À l'heure présente, elles seules sont une lumière de vie éternelle sur le chemin du croyant véritable de celui dont l'âme est devenue vivante par Jésus-Christ. Chers amis, vous étoufferiez dans le monde d'aujourd'hui, vous crieriez votre révolte en face des puissances monstrueuses qui s'affrontent et qui éteignent les lumières de l'espoir les unes après les autres. Vous péririez, broyés dans les engrenages toujours plus rapides et bruyants d'un monde mécanique, oui. En effet, vous seriez englué par l'angoisse légitime si vous ne pouviez lancer du fond de votre cœur les mots victorieux de l'invocation par excellence « Notre Père qui est aux cieux ». Ces simples paroles, vous le sentez déjà, sont plus qu'une préface à la prière modèle. Elles sont les premiers balbutiements de celui qui, étant né de nouveau, apprend à dire par l'Esprit Saint « Abba », c'est-à-dire « Père ». Mais elles façonnent encore les derniers soupirs du chrétien vétéran. Elles sont un appel et déjà une réponse. Elles sont une confession de foi, mais aussi d'expérience. Elles sont un chant d'espérance qui triomphe de la faiblesse et du monde et du malin. Elles sont donc un véritable cantique d'adoration. Vous savez, on parle non sans raison de l'irrespect des jeunes à l'égard des parents, des maîtres, des lois familiales et de la morale. Oui, de tout ce qui représente une autorité. On s'étonne qu'ils osent appeler les aînés des croulants, des fossiles ou des archives. On oublie très souvent d'ajouter que les responsables de ce lamentable état d'esprit, ce sont les aînés qui ont abandonné le respect du Seigneur dans leur vie personnelle, familiale et sociale, créant ainsi l'impression que la piété est une chose très secondaire. Nous moissonnons dans notre génération ce que d'autres et Satan ont semé hier. Et en deuxième lieu, je signalerai comme caractéristique additionnelle des temps modernes les vantardises et les pièges du matérialisme. Pensez donc, avec les progrès de la conquête spatiale, on n'a plus tellement besoin de Dieu sur la terre. Pendant ce temps, les sentiments, la famille et la société se désagrègent. Et c'est dans ce contexte que le chrétien qui veut rester chrétien peut heureusement crier cette prière corrective « Que ton nom soit sanctifié ». Pourquoi ai-je dit que cette première requête est corrective? En effet, elle l'est parce que elle combat d'emblée l'égomanie. Une enquête des services téléphoniques a permis de constater que les mots revenant le plus fréquemment dans la conversation sont « je »,« moi », »,« mon ». Nous ne serions pas étonnés que cette tendance de se mettre partout au premier plan menace aussi les chrétiens. L'esprit du monde est un gaz si subtil qu'il intoxique parfois notre piété même. La plupart du temps, nous nous approchons de Dieu non comme des serviteurs, mais comme des mendiants. Or, s'il est juste de lui exposer tous nos besoins, Jésus-Christ nous enseigne pourtant qu'en premier lieu, nous avons à le servir dans la prière. Oui, en effet, que ton saint nom soit sanctifié. En principe, pour l'enfant de Dieu, la prière ne devrait pas suivre cet ordre « Donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous ». Elle devrait respecter plutôt l'ordre établi par Jésus-Christ qui nous apprend à nous occuper d'abord du nom de Dieu. Voulons-nous, par grâce et avec l'aide d'une authentique inspiration du Saint-Esprit, apprendre de plus en plus à respecter cet ordre et même dans la prière, à combattre l'égomanie, et ceci en donnant à Dieu sa place, c'est-à-dire la première place. Nous entrerons alors dans un nouvel et véritable apprentissage de la prière. Pour la gloire du Seigneur et notre plus grand bien, je me permets de vous exhorter. Si nous voulons respecter le précieux principe de vie spirituelle que Jésus-Christ enseigne tacitement par la place qu'il donne à cette requête, non seulement nous mettrons Dieu en premier dans notre piété, mais aussi nous lui donnerons l'autorité suprême dans notre vie. Nous ne permettrons pas que les avantages du progrès matériel usurpent la place qui revient à Dieu. Nous ne serons pas les serviteurs de la science, du confort ou de l'argent. Nous veillerons avec soin à ne point avoir d'autre Dieu devant sa face. Nous nous exercerons, oui, nous allons nous exercer à donner au Seigneur notre amour et notre foi suprême, ce qui sera notre sauvegarde contre le matérialisme asphyxiant. Et nous nous préserverons enfin de l'irrespect généralisé en adoptant le principe de piété et de vie que Jésus-Christ a donné dans cette première pétition qui dit « Que ton saint nom soit sanctifié ». Jésus-Christ rappelle à ceux qui, par le Saint-Esprit, ont le privilège de parler au Dieu trois fois saint comme à leur Père, qu'il est le Père céleste et non un grand-papa céleste. Chers amis, que l'intimité des chrétiens ne perde jamais le sens du respect que l'on doit au Seigneur. C'est là ma prière ardente. Car voyez-vous, si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, une certaine perte du respect que l'on doit à Dieu sous prétexte d'intimité spirituelle a été sans aucun doute le commencement de beaucoup de folies parmi certains chrétiens davantage excités que réveillés. Mais je ne voudrais pas donner l'impression que cette première requête nous exhorte uniquement à ce que l'on pourrait appeler des vertus passives. Cette prière, plus nécessaire que jamais dans le monde d'aujourd'hui, nous appelle également à l'action par excellence, et ça, c'est certain. Mais qu'est-ce que ce merveilleux nom ? Dans la Bible, le nom désigne la personne elle-même. Ainsi, quand le prophète Joël proclame dans le deuxième chapitre, verset 32, « Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé », il veut dire que quiconque appellera à son secours avec une réelle confiance, la personne du Seigneur sera sauvée. Je répète. Donc, quiconque appellera à son secours, et ceci avec une réelle confiance, la personne du Seigneur sera sauvée. Absolument. Et l'apôtre Pierre, de son côté, a dit, en parlant de Jésus-Christ, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune personne, aucun être qui puisse nous sauver, sinon Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cela, je ne leur en veux pas, mais scrutez simplement le Nouveau Testament. Cette signification est aisée à comprendre. Que serait notre nom sans notre personne? Un vain mot sans aucun sens. Le nom n'est rien sans la personne. Que ton saint nom soit sanctifié signifie donc que ta personne sois sanctifié. La Bible nous montre que l'homme traite le nom du Dieu saint, par conséquent Dieu lui-même, de diverses manières. Certains, nous dit la Bible, invoquent le nom du Seigneur. Et ceci, s'ils l'aiment vraiment, s'ils le célèbrent, s'ils le louent et le glorifient. Et d'autres, par contre, et la Bible le note également, renient carrément ce saint nom du Seigneur. Ils le blasphèment, ou bien même ils le méprisent. Et croyez-moi, ça c'est très grave. Ils le déshonorent. Et parce que il en est ainsi, ceux qui profanent ce nom ou qui le prennent en vain, eh bien Dieu lui-même déclare « Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu » et également « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Exode, chapitre 20, verset 7. Qu'ils sont nombreux, chers amis, en effet, ceux qui mêlent le nom du Dieu saint à toutes sortes de turpitudes. Au milieu de leur colère et de leur péché, nous les entendons même jurer par ce saint nom. Pour d'autres, dont le langage n'est pas grossier, c'est une vie impure qu'ils camouflent derrière les rites de leur prétendu christianisme. Ils ont le nom du Seigneur sur les lèvres, ils le chantent dans leurs cantiques, mais leurs actions ne sont pas en accord avec les exigences et la sainteté de ce nom. Ce fut mon cas pendant plusieurs années. Il en est enfin qui, plein de bonne volonté pour servir leur Seigneur, s'approchent pourtant de lui sans humiliation, ni respect, ni adoration, ni soumission. Ils oublient que ce Dieu vers qui ils viennent est le Dieu trois fois saint. Ils ne prêtent pas l'oreille à la voix qui s'adressait à Moïse du buisson ardent et lui disait « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Ils osent s'approcher avec la poussière et la boue de ce monde pécheur. Et c'est devant une telle situation que Jésus-Christ dit « Que ton nom soit sanctifié ». Certes, il ne s'agit pas de rendre Dieu saint, car Dieu, en effet, est saint absolument, parfaitement. Il ne manque rien, absolument rien, à sa sainteté. Mais que son nom soit sanctifié veut dire que ce nom va être séparé de tout ce qui n'est pas saint, qui va être sans ces compromissions que les hommes s'efforcent de réaliser, qu'il ne va plus être mêlé à toutes les souillures auxquelles il veut l'associer. C'est bien là ce que Dieu attendait de son peuple. La Bible nous apprend que parlant à Aaron, il lui avait dit « Je serai sanctifié par celui qui s'approche de moi » et par la bouche du prophète Ézéchiel. À plusieurs reprises, il déclare « Je serai sanctifié par vous aux yeux des nations et les nations sauront que je suis l'Éternel. » Quand « Je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. » En s'associant à la prière du Christ, le croyant s'engage donc à sanctifier lui-même, dans la mesure où cela dépend de lui, le nom de son Dieu. Ainsi que son nom soit sanctifié, cela signifie que dans ma vie, il ne va pas y avoir une place pour Dieu et une pour le monde, une pour la lumière et une pour les ténèbres, une pour la vie et une pour la mort, disons davantage, une pour moi et une pour Dieu. Gloire à Dieu. Cela veut dire que ce Seigneur va grandir en moi et pour moi, et ceci pendant que moi, je vais évidemment faire le contraire, c'est-à-dire diminuer. Cela veut dire que je renonce totalement à moi-même, qu'il n'y a plus que le Seigneur dans ma vie, que ce n'est plus moi qui vis, mais que Christ qui vit en moi. Ça, ça change tout. Mais comment faire, demanderez-vous? Eh bien, la Bible nous montre, en effet, que seul Jésus-Christ a vraiment sanctifié le nom de Dieu et a été sans péché. S'il est mort, ce n'est pas parce qu'il était injuste. Il est mort, lui, juste pour des injustes. Pour sanctifier le nom de Dieu, il faut donc être uni à Jésus-Christ. Lui qui, par sa mort sur la croix, a arraché le pécheur à son péché et l'a introduit dans la famille de son Père, il est le seul capable, par son exemple, par sa parole et son esprit, de donner à l'enfant de Dieu de sanctifier le nom trois fois saint. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il dit aussi, tout est possible à celui qui croit. Saint Marc, chapitre 9, verset 23. Chers amis, êtes-vous entrés dans la foi? Commencez sans plus tarder à sanctifier le saint nom de Dieu qui vous aime en implorant le pardon de vos péchés. Le sang de Jésus-Christ, son Fils crucifié, vous purifiera alors et conduit par ce divin Sauveur, vous marcherez de victoire en victoire dans la certitude que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais il faut d'abord, tout d'abord, venir à la croix. Et c'est là que le chemin commence. Deuxièmement, il est dit que ton règne vienne. Que ferai-je donc de Jésus? Celui qu'on appelle le Christ demandait il y a plus de 20 siècles le gouverneur romain Pilate à la foule massée devant son tribunal. Aujourd'hui, chacun ferait bien de se poser la même question. Que ferai-je donc de Jésus-Christ? Tant d'hommes, en effet, méprisent, profanent ou exploitent le saint nom de celui qui est venu. Il est venu pourtant pour les sauver et de celui qu'il a envoyé pour accomplir ce salut. C'est bien pour cela que Christ, dans la prière qu'il a enseignée à ses disciples, invite ceux qui, par la foi, sont devenus des enfants de Dieu à demander que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que le nom du Père Céleste qui est saint ne soit pas mêlé aux turpitudes ou aux compromission auquel les hommes s'efforcent de l'associer, mais qu'au contraire, tout dans la vie du croyant honore ce saint nom béni en attendant l'heure où l'univers entier, à son tour, va l'acclamer. Ayons dit ainsi, que ton nom soit sanctifié. J'ai continué sa prière en disant « Que ton règne vienne ». Oui, « Que ton règne vienne ». Y a-t-il donc d'autres règnes que celui de Dieu ? La Bible nous le dit en plusieurs de ses pages. C'est l'évangéliste Matthieu au chapitre 4, versets 8 et 9 de son livre, qui nous rapporte que le diable montra à Jésus-Christ tous les royaumes de ce monde et lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » C'est l'évangéliste Jean au chapitre 12, verset 31 de l'Évangile, qui porte bien son nom et qui note cette parole du Christ. Le prince de ce monde va être jugé et jeté dehors. Et l'apôtre Paul déclare dans Romains, au chapitre 5, verset 14, « La mort a régné depuis Adam. » Et tous ces règnes, oui, tous ces règnes parce qu'ils sont les règnes du monde, ils sont les règnes de Satan ou le règne de la mort, si vous voulez. Ils portent aussi d'autres noms, règne de la souffrance, règne de la maladie, règne de l'égoïsme, règne de la corruption, règne de l'injustice, règne de la haine, règne du péché, règne tous plus tyranniques et implacables les uns que les autres. Nous en faisons parfois la tragique expérience que si ces règnes mauvais ont pu s'étendre avec une telle ampleur leur domination sur l'humanité tout entière, c'est parce que les hommes ont repoussé le règne de Dieu. Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, ont-ils dit. Ainsi, quand les Hébreux, pour ressembler aux autres peuples, demandent un roi, Dieu fait remarquer à son serviteur Samuel, « C'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » Et quand Pilate présente Jésus-Christ au peuple rassemblé devant lui, un dramatique dialogue s'engage. Saint Jean nous l'a consigné dans son évangile au chapitre 19, versets 15 et 16. « Voici votre roi, dit Pilate. Hôte, hôte, crucifie-le, se met à hurler la foule. Crucifierai-je votre roi ? Reprend Pilate. Et les chefs des prêtres de répondre, nous n'avons pas d'autre roi que César. Folie des hommes qui préfèrent les règnes barbares des Césars au règne de Dieu. C'est absolument tragique, cela. Mais pourquoi ce règne de Dieu est-il enviable ? Qu'est-il donc ? La Bible sobrement, mais réellement, nous le dit. Elle nous dit d'abord que le monde n'est pas le meilleur des royaumes, car le meilleur de ceux-ci n'est rien à côté de celui de Dieu. Elle nous dit ensuite que c'est un règne exclusif, car un jour viendra où tout empire, toute domination et toute puissance auront été détruits. Elle nous dit que ce sera un règne éternel. Elle nous dit également que le mal n'y existe pas. Voyez plutôt ce qu'annonce le prophète Ésaïe. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Ailleurs, la Bible affirme « la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu ». La parole de Dieu nous dit que la réalité du règne de Dieu, ce sont de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Plus de souffrance, plus de maladies, plus de haine, plus de guerre, plus de fléaux sociaux, plus de meurtres, plus de cimetières, parce que plus de morts et plus de séparation, plus de larmes, plus de peur, plus de cataclysme et plus de péché. Oui, plus rien de tout ce qui fait la misère et le malheur et la honte des hommes. Mais ce seront la paix, la justice. Il y aura la joie, le bonheur dans sa perfection et la vie dans sa plénitude. Oui, l'amour, car Dieu est amour. L'amour du Père pour ses enfants, l'amour des enfants pour leur Père, comme l'amour des enfants les uns pour les autres. Oui, qu'il vienne donc ce règne de Dieu. Qu'il vienne promptement, chers amis, et que finisse alors notre misère. Mais diverses questions se posent aussitôt. Comment viendra-t-il? Quand viendra-t-il ce règne de Dieu? La Bible nous apprend que ce n'est pas par une transformation progressive de l'humanité, mais uniquement par l'avènement du roi Jésus-Christ. Et c'est pourquoi l'Église fidèle du Christ, quand elle prie, elle dit aussi « Viens, Seigneur Jésus-Christ, viens » Apocalypse 22, verset 20. La Bible ajoute que nul ne sait ni le jour ni l'heure où cela se produira, mais elle indique des signes qui permettent d'en discerner l'approche. Une apostasie sans précédent. Les faux Christ, et puis aussi l'évangile prêché par toute la terre, à toutes les nations. Le désert qui refleurira, c'est-à-dire le peuple d'Israël, installé à nouveau dans son pays. Quand vous verrez ces choses arriver, dit le Christ, sachez que le royaume de Dieu est proche. Quand sera tout cela? Non, nous ne le savons pas exactement, mais ce qui se produit sous nos yeux actuellement, dans le monde entier et en Palestine, tout spécialement depuis quelques années, proclame plus que jamais que la fin des règnes de ce monde et de ce monde lui-même est proche. Or, cette fin, ce sera celle aussi de la patience de Dieu, du temps en effet de sa grâce. Car ceux qui auront méprisé l'amour de Dieu et détourné la tête à l'appel de sa voix, ceux qui persistent dans leur péché et ne se seront pas réconciliés avec Dieu, seront alors condamnés à jamais avec le monde. Car le royaume de Dieu est saint et rien de souillé ne pourra y entrer. Il est dit « Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, affirme le Christ. Mais heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire leur vie, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Je répète, heureux ceux qui lavent leur robe, c'est-à-dire leur vie, et ceci afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville céleste. Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15. Chers amis, Jésus-Christ est-il votre roi? Dieu est en train d'exaucer la prière de ses enfants. Mais prononcer les mots de cette prière, ce n'est pas seulement être tourné vers un avenir plus ou moins proche. C'est déjà, dans sa propre vie, laisser le Christ régner. C'est donc destituer celui qui a pris place sur le trône de nos vies. C'est le moi haïssable. Oui, destitué par une révolution, cet usurpateur, et le mener à l'échafaud. Cet échafaud qui s'appelle tout simplement la croix. La croix du calvaire sur lequel le Christ lui-même l'entraîne et triomphe de lui, et ceci à tel point que l'apôtre Paul a pu dire « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Christ qui était devenu le roi de l'apôtre Paul peut ainsi devenir le roi qui règne sur vous. Alors ce royaume de Dieu qui vient sera déjà avec toute sa richesse, avec toute son abondance, avec toute sa plénitude et avec tout son amour. Il sera déjà, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, et ceci pour toujours. Il sera donc déjà, selon la parole même de Jésus-Christ, au-dedans, oui, au-dedans de vous. Dieu, par Jésus-Christ le Seigneur, est avec les siens. Oui, en effet, on peut dire que ton règne vienne. Chers amis, nous avons maintenant, troisièmement, la phrase qui dit « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». L'une des pages les plus pathétiques de la Bible est celle qui rapporte les heures que Jésus-Christ passa dans le jardin de Gethsémané la veille du jour où il fut crucifié. Il serait donc tout à fait faux, car il s'était éloigné tout simplement pour prier et pas pour dormir. Il avait pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et même des angoisses. Il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non parce que je le veux, mais ce que toi tu veux. » Et il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Que ta volonté soit faite. » Il pria pour la troisième fois, répétant exactement les mêmes paroles. Dans cette prière à Gethsémané, trois fois, le Christ reprend donc la pensée d'une des expressions du Notre Père, c'est-à-dire la prière qu'il avait enseignée à ses disciples. Il leur avait en effet appris à dire « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Oui, sans aucun doute, Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en toutes choses. Lui-même l'affirme, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est écrit dans Saint Jean chapitre 4, verset 34. Et ailleurs, il est dit, « Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est bien à lui que s'appliquent les paroles du psaume 40. Voici je viens ô Dieu pour faire ta volonté. » Pendant toute la durée de son existence sur la terre, selon le témoignage des évangiles, Jésus-Christ a fait cette volonté de Dieu. Il l'a faite sur la terre comme il la faisait au ciel. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Aussi, dans les affres de son agonie sur la croix, au moment où il expirera, pourra-t-il dire, comme étant l'expression de l'exacte vérité. Oui, l'exacte vérité, c'est bien cela, que tout est accompli, selon saint Jean, chapitre 19, verset 29. La volonté de Dieu avait donc été faite par lui. Oui, en effet, quelle est, chers amis, la volonté de Dieu? Eh bien, les hommes de la Bible nous la montre comme étant une volonté pleine de miséricorde. Il est dit dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 14, je crois, « Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits, dit Jésus-Christ lui-même. » Oui, en effet, mes chers amis, Dieu veut que tous les hommes puissent être sauvés et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité, déclare l'apôtre Paul. Et l'apôtre Pierre de dire, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La Bible nous dit aussi que cette volonté est bonne, elle est agréable et parfaite. Comment pourrait-il en être autrement d'ailleurs, puisque c'est celle de Dieu, c'est la volonté de Dieu, du Dieu d'amour. La première chose à savoir pour faire la volonté de Dieu, c'est évidemment de la connaître. Chacun peut connaître la volonté de Dieu le concernant. Comment cela? Eh bien, je pense que les événements, nos semblables, notre conscience, sans doute, peuvent nous éclairer sur la volonté de Dieu, mais il ne suffit pas. C'est essentiellement, je pense, avec réalité, et j'en suis sûr, c'est essentiellement dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu que nous apprenons à la connaître, la vérité, c'est-à-dire pas seulement la vérité, mais surtout ce que Dieu désire pour nous, c'est bien entendu sa volonté. Et je le répète, on a dit que les événements, nos semblables, notre conscience, peuvent nous éclairer sur la volonté de Dieu. Mais tout cela ne suffit pas toujours, car c'est essentiellement, et cela il faut bien le souligner, c'est essentiellement dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu que nous allons apprendre à connaître véritablement la volonté de Dieu. Dieu, dans sa sainte parole, nous indique sa volonté et les commandements, le décalogue, par exemple, nous révèle tout cela. Jésus-Christ l'a résumé dans le sommaire de la loi, disant « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » C'est bien pour cela que celui que l'on connaît sous le nom de Saint Augustin disait « Aime Dieu et fais ce que tu voudras. » Mais il faut pas mal comprendre cette phrase, car celui qui aime vraiment Dieu ne peut rien faire d'autre que sa volonté. Mais c'est Jésus-Christ, lui, que la Bible appelle la parole de Dieu faite chair, c'est Jésus-Christ qui a été la manifestation suprême de la volonté de Dieu et son expression parfaite. Et c'est pourquoi la Bible nous invite à fixer nos regards sur lui, à l'imiter et aussi à croire en lui, c'est-à-dire à nous lier à lui au point de ne faire plus qu'un seul, un seul, moi et lui avec lui. Mais il ne suffit pas de connaître la volonté de Dieu, il s'agit bien entendu de la faire. Jésus-Christ n'a pas appris à ses disciples à demander, par exemple, que ta volonté soit connue sur la terre comme au ciel. Mais il a dit que ta volonté soit faite, pas seulement connue, qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Je répète, Christ n'a pas appris à ses disciples à demander que ta volonté soit connue sur la terre comme au ciel, mais au contraire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Chers amis, ceci sera le royaume de la paix, le royaume de la liberté et de la justice, le royaume de la vie, le royaume de l'amour. C'est le royaume de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ proclame que celui-là seul qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux entrera dans ce royaume et personne d'autre, selon saint Matthieu chapitre 7, verset 21. Mais peut-on vraiment faire la volonté de Dieu? Vous dites peut-être « j'ai essayé et je n'ai pas réussi ». Je voudrais bien, mais je ne peux pas. L'apôtre Paul parle d'un échec semblable. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je haïs. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas si bien, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais surtout le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien. Le mal est attaché à moi. » Et l'apôtre de s'écrier alors, « Misérable que je suis, qui me délivrera? Qui va me délivrer ?» Comme nous le constatons, chers amis, l'homme, en effet, est incapable de faire la volonté de Dieu tant qu'il demeure sous la loi du péché. Et sous cette loi, il ne peut que mourir. Et c'est tellement vrai cela que l'apôtre Paul peut écrire aux Éphésiens, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Or, comment un mort pourrait-il faire la volonté de Dieu ? Il ne peut que se décomposer. On ne peut rien attendre de plus d'un mort. Pour faire la volonté de Dieu, il faut commencer par vivre. » Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, après s'être écrié « Qui va me délivrer du corps de cette mort ?» il fait retentir le nom du seul libérateur, oui, du grand vainqueur qui est Jésus-Christ. Oui, par lui, Jésus-Christ, il sort, nous sortons, du péché, et il et nous entrons dans une vie nouvelle. Et désormais, il, nous, pouvons vivre selon l'Esprit, cet Esprit qui conduit dans toute la vérité et qui donne à l'homme incapable de faire la volonté de Dieu, enfin la puissance de pouvoir l'accomplir. Remarquons bien, cependant, que Jésus-Christ n'enseigne pas à dire que ta volonté soit seulement acceptée, par exemple. Non, la Bible n'invite jamais à la résignation. Elle dit pas que ta volonté soit simplement acceptée. Le croyant n'est ni un stoïcien qui accepte la volonté de Dieu, ni un fataliste qui l'a subi. Mais au contraire, il est un vrai chrétien, c'est-à-dire que comme son Sauveur ressuscité, il est passé de la mort à la vie. Il est vraiment vivant et il agit. Et parce qu'il est ainsi devenu, comme le dit la Bible, ouvrier, disciple avec Dieu, et ceci par son action, il accomplit alors la volonté de son Père céleste. Notre souhait, c'est que vous, qui m'écoutez en ce moment, quelle que soit votre situation, votre âge, votre passé, que vous soyez bien portant ou malade, mon plus grand souhait, c'est que vous vous mettiez à rechercher dans la lecture et l'étude de la Sainte Bible la volonté de Dieu et que, comprenant votre impossibilité à l'accomplir, vous vous tourniez vous aussi vers Jésus-Christ. C'est lui qui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et qui rend maintenant ses mains percées vers vous pour vous sauver. Il vous apprendra à faire la volonté de Dieu, car il n'y a pas de plus grand bonheur, chers frères et sœurs et chers amis, que le Dieu de paix puisse vous aider, nous aider à faire vraiment sa volonté. Et c'est Dieu, ce Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut vous rendre capable, croyez-moi, de toute bonne œuvre, et ceci pour l'accomplissement, tout simplement, de sa volonté. Chers amis, avant de terminer par la prière, eh bien, j'aimerais partager avec vous quelques pensées concernant carrément la prière. Il est dit dans le psaume chapitre 6, verset 10, « L'Éternel accueille ma prière. » Prier, c'est prononcer sans cesse et avec amour au plus profond de nos cœurs un seul nom, Jésus-Christ. Prier, c'est avant tout, et du matin au soir, parler avec Jésus-Christ de tout ce qui nous préoccupe. Prier, c'est entrer dans la présence du Père avec Jésus-Christ, mon frère aîné, qui intercède pour moi auprès de son Père. Qu'est-ce qu'il puisse lui refuser à son fils bien-aimé? Je répète, prier, c'est entrer dans la présence du Père avec Jésus-Christ, mon frère aîné, qui intercède pour moi auprès de son Père. Oui, qu'est-ce qu'il puisse, lui, Jésus-Christ, refuser à son fils? Qu'est-ce qu'il puisse lui refuser à son fils bien-aimé? Le Père va jamais refuser quoi que ce soit à son fils bien-aimé. Prier, c'est donc aussi pouvoir tout dire à celui dont l'amour est sans borne et la puissance illimitée. Que pourrait-il nous manquer? Et pour terminer, prier, c'est présenter au Père les meurtrissures de son fils bien-aimé. Quelle prière, faisant appel à ces meurtrissures de l'agneau frappé pour notre rédemption, resterait inexaucée? Je vous le demande. Nous allons maintenant prier ensemble. Seigneur, je me réjouis en toi. Mon âme glorifiera l'Éternel. Je l'ai cherché et il m'a répondu. Oh, qu'heureux est l'homme qui se retire vers lui. Je chanterai à jamais les bontés de l'Éternel. Je manifesterai de ma bouche sa fidélité d'âge en âge. L'Éternel règne. Que la terre tressaille de joie. L'Éternel est bon. C'est lui qui nous a formés. Nous sommes son peuple et les troupeaux de sa pâture. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse le nom de sa sainteté. Mon âme bénit l'Éternel. Elle n'oublie pas un de ses bienfaits. La miséricorde de l'Éternel est de tout temps. Et mon âme bénit l'Éternel. Que rendrai-je à l'Éternel? Tous ses bienfaits sont sur moi. Je prendrai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Ouvre-moi les portes de la justice, j'y entrerai et je célébrerai l'Éternel. Que mon âme s'égaye en l'Éternel. Et je le bénirai en tout temps. Notre cœur se réjouira en lui parce que nous avons mis notre confiance en son saint nom, car sa bonté est sur nous. Le bien et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh oui, en effet, mon âme peut maintenant bénir l'Éternel. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et cela est une réalité absolue. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et merci pour l'intérêt que vous portez à ces études. Et comme je vous ai dit au début de la prière de notre Père, elle n'était pas possible de pouvoir avoir la place sur un seul CD. Aussi, je pense que nous aurons encore 3 CD sur ce sujet des plus importants, croyez-moi, car, comme je vous l'ai dit, moi aussi je faisais partie pendant bien des années de tous ceux qui connaissaient plus ou moins par cœur cette prière, mais sans comprendre la signification et de l'importance de chaque mot, de chaque phrase. À bientôt à nouveau, chers amis, et merci pour votre écoute. Au revoir.